Screen.
Bon,
voilà.
C'est parti. Eh bien, bonjour Dominique. Salut Dom. Bon, ben voilà, le confinement, ça nous a amené un peu à aller explorer ces podcasts et puis ces vidéos, conférences, etc. Et puis, on s'est dit que c'était peut-être intéressant qu'on utilise ce temps pour expliciter les textes qu'on avait produits ensemble sur le ski de rando et sur le faire ensemble et sur les facteurs humains. Donc, en fait, cet échange-là, il s'adresse à des skieurs de randonnée qui s'intéressent au sujet des avalanches avec ce biais des facteurs humains et puis du fonctionnement des groupes. Alors, ça s'adresse aussi aux gens à mes voyageurs, entre guillemets, qui font des randos avec moi. D'accord ? Alors, si tu veux bien, je vais essayer de te présenter, mais ouais, pétard, ça fait déjà 35 ans qu'on bourlingue ensemble, du yoga à l'Himalaya en faisant du ski, etc. Donc, voilà. Donc, tout ça pour dire que tu es à la fois un enseignant-chercheur en psychologie sociale, d'accord ? À l'Université de Franche-Comté. On se connaît depuis longtemps. Tu es aussi un pratiquant de montagne, en hiver, en été. Tu es leader aussi, tu participes, tu as une expérience large. Qu'est-ce que je pourrais dire? Oui, dans les experts, on a aussi mené ensemble des formes de recherche-action sur le même sujet, sur le sujet des interactions en expert. C'était sur, avec l'équipe népalaise, c'était sur… sur qu'est-ce qui se passait entre le groupe des alpinistes occidentaux et le groupe des alpinistes népalais en termes d'interaction, de leur motivation, de leur réalité, du cap culturel, de leur communication, et pour produire l'XP qu'on a vécu ensemble. Voilà. Là-bas, c'était déjà il y a quelques temps. Donc voilà. Et donc là, le sujet, il est bien d'aborder et de parler, d'éclairer l'article qui est en ligne sur mon site sur une volonté affichée d'aborder le faire ensemble et les facteurs humains avec un background plus scientifique. Voilà, d'ancrer cette réflexion dans une réflexion scientifique plus large. Voilà, c'était ça notre intention. Et puis d'ouvrir des portes sur d'autres dimensions. Est-ce que tu as des choses à rajouter là-dedans ?
Non, non, voilà, je trouve que tu as bien présenté
préparé notre histoire.
Hein. Ouais, voilà. Le fait que on va en montagne ensemble depuis déjà longtemps et que on intéresse toi dans ta pratique de guide et moi dans mon travail de chercheur en psychologie sociale et puis dans d'autres contextes plus cliniques,
je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est ma fonction de praticien BAC-10 qui est sur le terrain et voilà un regard d'un enseignant chercheur sur des notions qui moi m'intéressent et me manque, bien évidemment. Donc voilà, donc vas-y.
Ce que je veux dire, c'est que il y a un fond de réflexion qui est lié à mon activité professionnelle, mais pas uniquement. C'est aussi le résultat d'une expérience. Je crois beaucoup à l'importance des connaissances expérientielles et que c'est en grande partie dans le champ, en montagne, c'est ensemble que je les ai, c'est avec toi quoi, que je les ai construites. Donc, bien sûr. D'où aussi là où on en est ensemble là-dessus.
Oui, ça me fait penser, par exemple, l'histoire en ski de rando sur la GTA, la Grande Traversée des Alpes, qui est un projet de 15 jours où on avait l'année passée comme ambition de faire, entre guillemets, des masterclass sur la partie enseignement, bon, qui se sont soldés, pardon, on a fait autre chose parce que les conditions étaient simples, mais on est dans une logique de recherche-action, donc moi, ça me va complètement. Et là, on continue un peu cette histoire-là. OK. Alors, moi, je te propose de te poser 3 questions un peu sur les réflexions qui ont construit le texte qui est disponible actuellement et qui va être publié dans la revue de la NENA. Et donc, je te propose de discuter tranquillement sur cette affaire-là sans contrainte et voilà, un truc le plus détendu possible. Est-ce que ça te va comme ça ?
Impeccable. Roule ma poule, comme diraient certains.
Comme dirait Bissal. Oh là là. Alors bon, alors pour commencer, donc l'histoire de ce texte qui s'appelle, ça s'appelle comment cette affaire ? Ça s'appelle
l'oublier.
Faire ensemble en ski de randonnée quelques repères scientifiques. Voilà. Donc ça c'est un texte qui a été publié mis en ligne en décembre 2019. Alors donc là, effectivement, les facteurs humains, ils sont au cœur du processus de décision en ski de rando, etc., etc. Et actuellement, on les retrouve dans beaucoup de publications. On les a retrouvés dans le Montan Magazine spécial Nivologie. On les a retrouvés dans la réédition de cette année. On les a retrouvés dans l'article, un gros dossier Neige Avalanche de la NENA. Oui. Donc voilà, c'est clair que les facteurs humains sont de plus en plus présents dans la réflexion sur les prises de décision, à la fois dans les biais décisionnels. Bon, voilà. C'est vraiment un des cœurs du sujet. Alors, pour autant, toi, ton analyse issue de ton expérience, et principalement ton expérience en psychologie sociale, il apporte un autre éclairage. Est-ce que tu pourrais revenir sur ce sujet central et est-ce que tu pourrais nous expliquer où tu en es toi de ta réflexion?
Oui. Alors le point de départ, il me semble, c'est le constat que il y a un certain nombre de situations dans la pratique de la montagne, en particulier le ski de rando, mais pas uniquement. Où, a posteriori, on se rend compte qu'il y a eu des décisions prises qui ont finalement mis des gens en danger avec des accidents importants. Donc, il y a la question de la prise de risque, la façon dont on gère le risque et la façon dont, quand on part en groupe en montagne, les décisions sont prises. Et comment on analyse les conséquences de ces décisions. Et dans le champ de la psychologie sociale, la notion de prise de risque et les processus de prise de décision ont été travaillés dans des contextes qui ne sont pas nécessairement le nôtre, hein, dans la pratique de la montagne, mais qui sont potentiellement réinvestissables pour essayer de mieux comprendre les choses et pour améliorer aussi à la fois la philosophie d'un projet en montagne et puis aussi la mise en œuvre concrète dans la façon dont on communique ensemble pour que les choses se passent bien et pour qu'on ait l'occasion et l'envie d'y retourner et aussi d'y prendre plaisir. C'est pas un truc. Ça a quelque chose aussi, je crois, aussi à voir avec le plaisir qu'on a à être ensemble dans cette pratique commune. Alors, tu évoques les travaux autour des facteurs humains. C'est vrai que depuis, on va dire, une dizaine d'années, en gros,
peut-être… Oui, 2004, je pense.
Ouais, bon, 15 ans. Voilà. Il y a beaucoup de chercheurs et de professionnels de la montagne, de guides qui s'intéressent. Alors, beaucoup, le terme est flou. Peut-être, il n'y en a peut-être pas tant que ça, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, il y en a qui ont déjà bien travaillé la question. qui s'y intéressent et qui partagent notre comment dire envie de tenir compte, sinon de mettre au cœur dans nos pratiques les relations humaines, pour le dire de façon large. Alors, dans ces réflexions-là, il y a les travaux de McCammon en particulier qui ont essayé de focaliser l'attention sur ce qu'on appelle les biais cognitifs, c'est-à-dire les heuristiques ou les façons, les raccourcis intellectuels que l'on opère lorsqu'on prend des décisions et qui peuvent aboutir à des erreurs, parfois des erreurs fatales. Et que les travaux dans ce champ-là montrent clairement qu'on est tous pris à la fois par nos capacités à penser les choses, mais aussi par la complexité des relations. On est pris dans ces biais-là cognitifs. Et McCammon développe la nature de ces biais et montre que ça peut entraîner un certain nombre de décisions qui peuvent être inappropriées. Donc, dans le papier qu'on a écrit ensemble, on reprend un peu ça. Il y a d'autres auteurs qui ont repris ces éléments-là. Alors, dans le temps de notre petite vidéo, je ne vais pas y revenir là maintenant. Je voulais dire quelque chose.
Oui, en fait, effectivement, c'est vraiment venu d'actualité. Et par exemple, il y a des biais qui sont maintenant relativement bien identifiés, hein, relativement simple, le halo de l'expert, oui. Qui rend, voilà, par exemple, hein, ou au contraire, l'heuristique de rareté. Voilà, ça, c'est deux parmi d'autres qui sont. Voilà, que ça, on comprend bien. Hein,
c'est voilà. Ça. Et maintenant, on peut citer aussi, voilà, le biais de familiarité qui fait que. À notre insu, comme dira l'autre, on reproduit des solutions dans les prises de décision à un moment donné qui sont les options antérieures que l'on a validées comme étant pertinentes, mais qui ne le sont pas nécessairement dans la situation présente. Ça, c'est un biais qu'on appelle souvent le biais de familiarité, qui est à l'œuvre très, très souvent, qui est très souvent pertinent d'ailleurs. En gros, c'est on s'appuie sur nos expériences passées qui ont été positives pour dire « Ah oui, c'est comme ça qu'il faut faire. » Sauf qu'il y a un certain nombre… On oublie parfois de prendre en cause la singularité de la situation présente. On met de côté, on les évacue sans s'en rendre compte, tous les éléments environnementaux qui seraient susceptibles de remettre en cause la décision, l'hypothèse initiale qui nous paraît être la bonne, ce qui renvoie à un autre biais qu'on appelle le biais de confirmation. Donc, tous ces biais-là ont été explicités, élaborés, transposés dans le champ de la pratique de la montagne par un certain nombre d'auteurs. Alors, en lisant ces travaux, à ma place, je me suis dit, ouais, super, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le facteur humain est aussi pris en compte dans des dimensions qui sont pas prises en compte habituellement. Enfin, voilà. Et la question, c'est comment on va les intégrer aussi dans d'autres types de connaissances qui sont absolument fondamentales, comme la connaissance de la neige, de la météo, l'ensemble des nouveaux outils technologiques que l'on peut intégrer dans le processus décisionnel. Bon, il y a plein d'éléments qui aident, je crois, à penser les choses qui existent aujourd'hui. Pour autant, quand on regarde un peu les conclusions de l'analyse de McCammon sur l'analyse des biais cognitifs, il y a à la fois quelque chose qui renvoie à de la psychologie individuelle, qui intègre les dimensions interactionnelles, parfois même groupales, hein, l'idée que quand on est en groupe, on ne prend pas les mêmes décisions que quand on est tout seul. même avec les mêmes éléments de connaissance du moment présent. Bon, il y a un certain nombre d'éléments comme ça qui sont intégrés dans l'analyse de McCammon. Mais au final, ce qu'il propose comme stratégie décisionnelle sont essentiellement centrés sur la prise de décision du leader.
Ouais, je pense que c'est un truc important.
C'est ça, et c'est ça qui m'interpelle en disant, OK, ces éléments-là sont connus, sont intégrés, mais intégrés toujours dans, finalement, comment le leader ou le guide, ce qui te concerne, toi, va utiliser ces éléments de connaissance pour prendre ses décisions. Donc, ça renvoie à ça, quoi, la décision du guide.
Est-ce que tu veux dire aussi que toutes ces recherches-là sont très centrées sur la posture du leader, les compétences du leader, est-ce qu'on peut dire que c'est un espèce de champ de recherche qui entre guillemets va dans cette direction-là et qui évite ou qui ne s'intéresse pas à une autre dimension plus groupale?
Oui et non, c'est-à-dire que on peut dire que dans le champ de la psychologie sociale, tous les travaux sur le leadership sont extrêmement importants, mais on comprend bien pourquoi aussi, même dans le processus de recherche lui-même, c'est-à-dire que on sait comment faire pour étudier, on va dire, les processus de leadership. Sur la dimension groupale, on ouvre un espace de travail qui est plus complexe, sans rentrer dans
des détails.
Mais sur le plan méthodologique, c'est un peu plus compliqué. Et sur le plan aussi même de la mise en œuvre par la suite, dans la pratique elle-même, intégrer les dimensions groupales, ça reste compliqué. Ça reste compliqué, même pour des gens qui s'y intéressent de près. C'est quand même plus opérationnel de centrer, de mettre la focale sur le processus décisionnel du leader ou du guide que de se dire comment ce processus-là, il ne s'agit pas de dire ça n'existe pas. Bien sûr que ça existe et qu'il y a des moments des tas de moments. Après, on aura l'occasion probablement d'en reparler quand on évoquera les questions des modes de vigilance. Mais il y a des moments où la question du processus décisionnel du guide, elle est absolument fondamentale. Il faut absolument travailler là-dessus. Mais il y a aussi plein d'autres aspects qu'il me semble important d'intégrer. Alors, je ne sais pas comment tu souhaites qu'on continue, mais en particulier…
Mais effectivement, là, je pense qu'il y a un vrai, entre guillemets, il y a un vrai basculement. C'est que alors qu'on était très centré sur des formations de leaders, et je vois dans les stages de la NENA, les documents produits montrent ça. Bien sûr, il y a une prise en compte du groupe, mais c'est la prise en compte du groupe de manière très large par le leader. On n'est pas dans une réflexion beaucoup plus ouverte. Et je trouve que là, ce qui émerge là actuellement, c'est cette notion de membership, c'est-à-dire c'est le nom anglais, mais du membre ou du participant. Et là, on rentre dans une autre dimension qui à la fois, en fait, pour moi, résonne aussi, par exemple, par rapport à Debouc, quand Debouc dit, on se trompe, les leaders les plus formés se trompent. Et on en a des exemples dans les accidents avec des gens hyper compétents qui se trompent, et on se demande bien pourquoi ils se trompent, mais ils se trompent. Et là, je trouve qu'effectivement, on peut continuer à former les leaders de manière exponentielle, mais il y aura toujours des moments où les leaders vont se tromper. Et là, il y a une espèce de changement de mode de pensée qui est nécessaire d'émerger. Et je trouve que justement, le fait de dire, mais on n'a pas investi dans les membres, Et en fait, pour moi, la phrase principale, c'est plus les gens qui m'accompagnent sont formés, plus sont formés les uns et les autres, plus la sécurité du groupe dans son ensemble augmente. Et ce n'est pas simplement si moi, je me forme. Donc voilà, cette phrase-là, pour moi, elle est centrale. Donc sur cette réflexion qui est centrée sur le leader, donc on passe à l'émergence de cette notion de membership. Et effectivement, c'est penser la notion de groupe dans la pratique et dans la pratique avec les interactions entre les leaders et puis les membres. Et c'est passer de cette notion uniquement verticale. Et c'est là aussi, c'est pas l'éliminer, c'est il y a une notion verticale et il y a une notion horizontale. Et comment les deux s'imbriquent pour que ce qui est vécu soit le plus riche possible et surtout soit fiable d'un point de vue de décision. Donc, je trouve que là, le changement de paradigme, c'est « Ouais, putain, on a oublié les membres du groupe et on n'a pas investi dans leur cerveau, dans leur mode d'interaction, etc. » C'est une carence incroyable.
Oui, ben oui, c'est compliqué. C'est parce que c'est en même temps, je comprends qu'on en soit que là d'une certaine façon, même en tant que psychologue social. Mais c'est-à-dire que si on essaye d'aborder les choses d'un point de vue un peu systémique, pour le dire comme ça, c'est la notion de leadership, si on la prend de façon très stricte, et presque de façon caricaturale, quoi. C'est une relation de communication verticale entre un guide et ses clients sur une vision très voilà, moi je m'engage à vous emmener là et les gens ils disent oui ou non, puis s'ils disent oui, ben voilà.
Voilà, c'est le voilà. Guide qui va devant, c'est le voilà,
va
c'est
devant le... et c'est quand je dis ça. Quand je dis ça, c'est pas c'est absolument pas péjoratif, quoi. Je pense que c'est aussi une vraie compétence de faire ça et qui est importante et qui est rassurante, qui permet et j'en suis le premier bénéficiaire par moment, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où je suis allé où je vais pas s'il y a personne qui m'emmène, quoi. C'est aussi simple que ça. Donc mais ce qu'on essaye de dire, c'est que voilà, il y a ça, c'est cet axe vertical, relation entre un guide ou un leader selon les contextes et puis une personne qui fait partie du groupe. Et si on parle de groupe, il y a aussi une dimension horizontale qui est qu'un groupe, ça ne fonctionne pas uniquement dans les relations entre le leader et les différents membres du groupe, en alpinisme, en expé, bien sûr que non. Il y a toute une vie commune qui existe, des choses qui se disent là, qui ne se disent pas là, qui se disent à des moments différents et qui participent de la vie collective. Et qui, à un moment donné, et c'est là qu'il me semble important de mettre la focale, qui, à un moment donné, va interférer avec le processus décisionnel, qu'il soit potentiellement collectif ou pas. C'est-à-dire que même si, au bout du compte, la décision appartient au guide, en particulier dans les moments où il y a des décisions en termes de prise de risque importantes, c'est de la responsabilité du guide de dire ben oui, on y va, on n'y va pas, etc. Mais cette réalité-là collective qui existe de fait à partir du moment où on est un certain nombre de personnes n'est pas élaborée comme pouvant être un élément pour comprendre mieux l'ensemble du processus décisionnel qui apparaît à un moment donné. C'est vers ça qu'on a envie d'aller. Alors, ça se traduit sur différents axes, à la fois des dimensions structurelles de groupe, de façon très basique, mais qui existe, quoi. C'est d'ailleurs le nombre de personnes dans un groupe. C'est pas pareil en termes d'interaction interindividuel, mais intragroupal aussi, je peux m'expliquer un tout petit peu là-dessus. Ce n'est pas pareil d'être 5 ou 6 ou d'être 10, 12. Ce n'est clairement pas pareil.
Oui, là, pour compléter là, c'est évident que quand on regarde ce qui se passe sur le terrain, quand on a des groupes qui sont soit avec des professionnels, mais avec des amateurs, ou dans le cadre associatif, quand on a des collectives qui dépassent parfois 10 personnes, même si, ou 8, et, ou même des groupes encadrés par des professionnels où ils sont une douzaine. Et après, même les logiques de co-encadrement qui augmentent la taille du groupe, c'est pas possible. On peut pas être dans une forme de prise en compte des interrelations dans ce qu'on nous on appelle le faire ensemble. Donc pour moi, cette logique structurelle, elle est peut-être simple, mais elle est primordiale. Si, oui, par exemple, dans la GTA, on allait être 8, Eh ben, on est à un seuil où notre capacité à faire ensemble est rendue plus difficile par la taille. Et là, pour moi, ça touche mes enjeux économiques. Donc, faire des préconisations en disant, si vous voulez être plus fiable dans vos modes de fonctionnement et intégrer le même, il vous faut à la fois réduire la taille du groupe. C'est une nécessité. Mais dire ça, c'est déjà hyper important. Par exemple, ça, c'est, alors moi j'appelle ça des méta-règles, mais peu importe. Voilà, ça, c'est dans les logiques structurelles. Et après, dans des logiques fonctionnelles, toi, c'était quoi qui était le plus important pour toi?
Alors, juste pour compléter sur l'aspect structurel, c'est quand on dit en termes de nombre, c'est pas le nombre en. C'est quoi qui est important? C'est pas le nombre en tant que nombre, c'est que le nombre conditionne l'importance des interactions, c'est-à-dire la quantité. Alors, dans l'article, on marque la formule qui permet de calculer le nombre d'interactions possibles, parce qu'il y a les interactions interindividuelles entre des individus, mais aussi entre des sous-groupes qui ne manquent pas de se former à l'intérieur d'un groupe de 7-8 personnes, par exemple. Il y a sur des critères qui peuvent être implicites ou pas, visibles ou pas, que les gens souhaitent mettre en évidence ou pas. Prenez un exemple. Voilà, si on a un groupe mixte, il y a de façon basique les filles et les garçons. Est-ce que cette réalité-là interfère avec la pratique ou pas? C'est une vraie question. Je sais pas, ça dépend. Voilà. Il y a souvent quelque chose qui est mis en évidence, dont on a déjà parlé ensemble, c'est l'idée que c'est le niveau de compétence et qui n'est pas forcément le même à la montée et à la descente, par exemple. C'est ce qu'on met dans l'article entre avion de chasse et luge à foin. C'est cette espèce de... qui peut avoir
la notion de cohésion groupale.
De cohésion groupale, c'est-à-dire est-ce qu'à un moment donné, la différence entre les gens est un obstacle au faire ensemble et ou au plaisir de faire ensemble, ou ça peut être pensé comme un atout. Et ça, c'est pas si simple non plus. Oui.
J'aime bien ta phrase de Durkheim là. Tu te rappelles de ça?
Laquelle?
Ouais, qui dit que la cohésion d'un groupe, elle est. Qu'on avait plusieurs manières de. Tu te rappelles de ça?
C'est l'idée que l'hétérogénéité d'un groupe peut être une richesse. Et que. C'est pas seulement, comment dire, c'est en termes d'apprentissage, de vie commune, d'augmentation mutuelle des compétences de chacun, l'hétérogénéité n'est pas un obstacle. Mais oui. dans d'autres champs aussi, dans le champ de l'éducation, par exemple, il y a plein de gens qui ont développé ces questions-là sur le fonctionnement des classes, par exemple. Est-ce que c'est mieux d'avoir des classes homogènes ou des classes hétérogènes? Tous les travaux en psychologie de l'éducation montrent que c'est mieux d'avoir des groupes hétérogènes. Tous, il n'y a pas faux, il n'y a pas photo sur la question. Sauf que en montagne, on dit ouais, mais s'il y en a qui nous ralentissent ou qui, eh ben, on va pas pouvoir faire ce qu'on veut faire ensemble. Donc c'est une vraie question ouverte. Hein.
Mais là, c'est hyper intéressant dans la notion de, en fait, pour faire ensemble, eh ben, en fait, il faut rester ensemble. Oui. Et ces modalités de rester ensemble, elles sont sacrément mises à mal bah, par des hétérogénéités par moments trop importantes, mais surtout parce qu'il n'y a pas adhésion à ce projet de faire ensemble. Et ça renvoie sur une autre notion. Et là, on est justement quand on parle d'adhésion, eh ben on parle dans l'adhésion à quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire de faire ensemble ? Et on est sur cette notion, sur une notion d'un projet. Et là, il y a quelque chose à. Il faut absolument continuer et dire des choses sur quelle est la nature du projet qu'on veut bien mettre en place. Et bien là, dans les trucs, par exemple, je pense à la GTA, ben on est dans un projet co-construit. Et on est dans un projet même où on a d'un programme, c'est-à-dire le J1, je fais ça, le J2, je fais 3, etc. Et ben on est passé d'un programme à un projet. Et là, on a une autre dimension qui interpelle la manière dont on conçoit, dont on se représente nos activités de montagne. Et il me semble que après la notion du passage du leadership au membership, là, de cette notion d'une course structurée sur un objectif qui est réalisé, on passe à la notion de projet. Là, on est au cœur d'une autre problématique et d'une autre réflexion.
Oui. Ben, ça va être l'objet de nos futurs échanges, je pense, parce que la réflexion, elle est loin d'être aboutie. Parce qu'il va falloir intégrer aussi ce dont on vient de parler, c'est-à-dire que voilà, les à la fois les dimensions groupales, la notion de cohésion de groupe, on va y revenir forcément, et puis aussi les logiques de communication qui vont avec la question du débriefing dont on parle aussi de plus en plus aussi dans le milieu de la montagne qui est importante, ou les retextes et toutes ces questions-là.
Les vigilances aussi, c'est voilà.
Ces questions-là. Donc là, on va revenir là, puis ça aussi, ça positionne aussi, je pense, aussi à toi dans cette réflexion, c'est-à-dire que comment un guide peut être à la fois formateur, accompagnant, être présent à des moments et peut-être pas tout le temps. Comment tout ça se combine pour aussi faire son boulot, c'est-à-dire en vivre. Enfin, voilà, ce sont des questions.
Et toi, les réflexions, qu'elles soient dans le cadre professionnel, la réflexion sur la relation guide-client, guide-voyageur pour moi, hein. Mais elle se traduit là dans le champ professionnel, mais par exemple, elle se traduit aussi dans le champ associatif.
Oui, tout à fait.
Etc., etc. Il y a des réflexions en cours, mais ce qu'on peut regarder, ce qu'on peut voir, c'est ce frein énorme, cette réticence absolue de vouloir s'engager dans une co-construction et que plutôt que d'avoir je fais le programme de l'hiver au mois de novembre avec les chefs, ça peut, avec les initiateurs de telle section du CAF et je reste ancré sur il faut un sommet emblématique à telle date, alors que je sais pertinemment qu'à telle date, il fera je sais pas trop quoi et que globalement, voilà, que cette notion-là soit pas enclenchée et qu'on n'est pas encore beaucoup avancé sur ces notions-là. Je pense que moi, je te propose qu'on essaye de revenir là-dessus parce que là, on a un vrai sujet pour préparer la prochaine saison, bien évidemment. Et moi, j'ai envie d'aller le plus possible dans les projets que je mets en place, donc mes projets de guide, vers de la co-construction et vers des enjeux participatifs. Et là, on est bien dans le projet. Donc voilà, ça c'est la suite de l'article en fait qu'on a fait là. Et les vigilances, elles nous amènent à ça. Hein. Ça me semble très intéressant.
Et puis pour en t'écoutant, je pense aussi à une réflexion d'Edgar Morin qui, pendant le temps de confinement, on vit quand même un moment un peu étrange, mais qui peut-être peut avoir des effets intéressants malgré le côté dramatique hein, que ça a pour tous les gens qui ont été touchés par le virus. Mais l'idée que l'illusion d'un monde de certitude est, bon, il faut l'évacuer.
Et, ouais, bien sûr.
Et donc dans cette idée de projet, il y a aussi accepter les zones d'incertitude comme étant pas des choses à combler, mais comme des ressources pour vivre autrement ce qu'on est en train de vivre. Et ça, je trouve ça intéressant. Pour le coup, cette période, peut-être, va nous amener à aller plus facilement vers toutes les idées qu'on essaye de développer.
Peut-être, ouais. Peut-être. Bon, bah, c'est super. On va voir qu'est-ce que… Ben, voilà. Eh bien, Dom… Bonne suite du confinement.
Ouais, et toi aussi, Polo.
Et puis voilà, on se retrouve pour le prochain épisode et puis on voit de quelle. Peut-être qu'on ira sur les vigilances. Je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait apporter de plus intéressant là-dedans. Voilà, Inch'Allah. À bientôt.
Salut, Polo.